Une sportive femme qui fait du sport de haut niveau, de la gymnastique ou de l'endurance, elle est généralement, elle n'a pas de règles parce ouais. qu'elle n'a pas de graisse. Elle est à 10-15%. Donc, on les met dans des situations qui sont antiphysiologiques. Mmh. Et là, enfin, on a une femme qui fait du sport à très haut niveau, qui sourit, qui n'est pas dans la souffrance, qui se fait plaisir, qui a des formes. Mais c'est extraordinaire.
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongiste professionnelle, aficionados du Stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Pour ce quatrième épisode, je dois vous avouer que j'ai eu un vrai coup de cœur. Je suis ressortie très émue de cette interview tant j'avais pris de plaisir à parler avec cette femme. Elle s'appelle Martine Duclos et elle est médecin du sport. Elle est également physiologiste et endocrinologue et beaucoup d'autres choses car son CV est long comme la perche de Renaud Lavilloni, c'est-à-dire à quel point elle connaît son sujet. J'ai souhaité l'inviter car elle s'est intéressée dans sa carrière à la femme en tant que sportive. Bon, je vous le donne dans le mille, dans cette interview on va parler règles, pilules, grossesse quand on est une femme qui fait du sport. Ne partez pas messieurs, je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Et on parle également du fait que la féminité des sportives est souvent questionnée dans le sport de haut niveau, et tout ça à cause d'une histoire d'hormones. Je ne vous spoile pas plus, mais ce qui est dit dans cet épisode est important. Important pour comprendre que hommes et femmes, nous sommes différents, mais autant faits les uns et les autres pour faire du sport. Bonjour Martine Duclos.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, donc Martine, pour faire une brève présentation de votre métier, donc vous êtes endocrinologue, médecin du sport, physiologiste, vous êtes également professeur des universités praticien hospitalier, chef du service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand, vous êtes également présidente du comité scientifique de l'ONAPS. Donc ONAPS, donc Observatoire National de l'Activité Physique et de la Sédentarité. Je vais m'arrêter là parce que...
Oui. Arrêtez-vous.
Stop. Parce que sinon, malheureusement, le podcast sera déjà fini avant que j'ai eu le temps d'être
surtout
énuméré.
Les gens sont partis en courant.
Donc moi, en fait, je vais poser une première question très simple. Mais en fait, quel est votre métier ?
Je suis médecin avant tout. Voilà, c'est je m'occupe des personnes malades. Ça, c'est la première chose. Moi, je m'intéressais depuis le début à l'activité physique et ou sportive, parce que j'étais sportive. Hein. On ne peut parler d'activité physique ou s'en occuper que si on est convaincu que c'est efficace. Et pour être convaincu, il faut soi-même savoir ce que c'est. Et puis soi-même, surtout, en avoir ressenti les bénéfices. Hein. Si on ne sait pas à quel point ça fait du bien. Alors, je ne dis pas de faire du sport comme un fou et faire ouais. du haut niveau. Hein. Je ne suis pas du tout une sportive de haut niveau. Mais bon, j'ai touché à plein de choses.
Vous avez pratiqué quoi comme,
voilà.
Comme sport?
Oh, bah, la natation, le judo... qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait oh, plein de tennis, plein d'activités, mais surtout tout ce qui touche à la montagne et la nature. Moi, je suis bien D'accord. quand je suis dans la nature, parce que voilà, c'est complexe, ça éveille, ça change tout le temps, c'est jamais la même chose, voilà. Et puis c'est source d'émerveillement permanent. Puis c'est se rappeler qu'on a des sens. Je veux dire, on est dans une vie tellement artificielle, merveilleuse, hein, parce que voilà. Mais se rappeler qu'on peut avoir froid, qu'on peut avoir chaud, qu'on peut transpirer, qu'on peut avoir faim, et puis après que c'est bien d'avoir un bouton, on a de l'eau chaude, qu'on a de la lumière artificielle quand on a passé 5 jours sous la tente ou dans l'humidité. Voilà, c'est bien de se rappeler aussi qu'on a de la chance de vivre dans le monde dans lequel on vit. Donc, c'est bien de revenir un peu aux fondamentaux. Donc, tout ça pour en revenir à l'intérêt de l'activité physique régulière et qui, moi, ça fait depuis le début que je fais de la médecine, que je m'intéresse à ses bénéfices. Sauf que ça fait que vraiment depuis 10 ans que la science remet l'activité physique dans les fondamentaux, à la fois de la science en montrant que ça a des bénéfices démontrés. Avant, on voulait pas du tout considérer que c'était une science, c'était pas une science, alors que maintenant, effectivement, les publications montrent que l'activité physique a des effets à la fois sur les neurones, sur le cœur, sur les adipocytes, sur l'os.
C'était considéré comme quoi en fait avant, si c'était pas considéré comme
une science ? Considéré comme une science molle, c'est-à-dire il y a les sciences dures, les vraies. Les sciences molles, bref, tout le mépris que pouvaient donner les grands instituts scientifiques vis-à-vis de choses qui étaient considérées. Vous savez, c'est la fameuse caricature de Serre qui montrait le sportif qui montrait ses biceps, et les biceps c'était le cerveau, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est exactement ça. Heureusement, les choses ont un peu évolué et puis maintenant on met vraiment l'activité physique au devant de tout. Puisque en fait, ces preuves, les preuves scientifiques montrent que l'activité physique prévient pratiquement toutes les maladies chroniques, toutes les maladies qui sont liées à notre mode de vie, c'est-à-dire pratiquement tout, l'obésité, le diabète, certains cancers, les maladies neurodégénératives comme le diabète, comme la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson, les maladies cardiovasculaires, toutes les maladies que l'on voit exploser actuellement. Ça permet aussi bien sûr de maintenir la santé. Et c'est aussi, non seulement ça prévient ces maladies, mais c'est aussi un traitement à part entière de toutes les maladies. Or, actuellement, les coûts de santé publique, 90% des coûts de santé publique sont liés à l'explosion de ces maladies. Or, on peut les prévenir par une activité physique et on peut diminuer les coûts de santé par une activité physique. Alors, je ne dis pas qu'il faut traiter toutes ces maladies en mettant les gens à faire de l'activité physique, mais en bougeant, déjà, on diminuerait l'incidence de ces maladies. On permettrait effectivement à ce que les gens qui ont ces maladies prennent moins de médicaments, soient moins fatigués et une meilleure qualité de vie. Donc effectivement, on améliorerait bien des choses.
Autre chose que je n'ai pas dit au début, vous avez également coécrit et écrit des ouvrages. Là, en l'occurrence, moi, je vais plus particulièrement parler d'un ouvrage qui s'appelle « La femme sportive », que vous avez coécrit avec Nathalie Boisseau et Michel Guinot. Parce que bon, là, en l'occurrence, c'est vrai que sur le podcast, on parle plus particulièrement, ou en tout cas on essaie de s'intéresser plus particulièrement à la pratique sportive féminine à la femme sportive aussi également. Moi j'avais une petite question en fait qui vient d'une phrase qui est marquée dans la préface. Les documents français traitant des aspects physiologiques et médicaux relatifs à la pratique sportive de la femme sont peu nombreux, donc qu'il en existe très peu en fait, et que cela tient à des raisons historiques et socioculturelles qui ont exclu les femmes de ce domaine jusqu'au milieu du XXe siècle. Pourquoi en fait ? Pourquoi les gens ne se sont pas intéressés à la femme et à la pratique sportive de la femme avant ?
Vous savez, la femme a longtemps été exclue de la compétition. Hein. Monsieur Coubertin avait quand même dit que les femmes n'étaient pas faites pour la compétition. Donc, la femme a eu accès aux compétitions de haut niveau beaucoup plus tardivement que l'homme. Donc déjà, il y avait une exclusion liée au genre. La femme était plutôt réservée à des tâches plus domestiques.
Oui.
Voilà. Donc malheureusement, c'est ça. Après, pendant longtemps, on a pensé que, effectivement, quand on voyait les caractéristiques physiologiques de la femme et ses performances, évidemment, elles étaient moins bonnes que celles des hommes, puisqu'elle a une taille un peu plus petite, moins de masse musculaire, mais c'est physiologique. La femme, elle a à taille et à poids identique, elle a moins de masse musculaire et plus de masse grasse. Donc, la performance étant principalement liée à la masse musculaire et aux capacités en endurance donc du cœur et des poumons, effectivement, sur certaines disciplines, elle est moins bonne. C'est-à-dire toutes les disciplines qui vont nécessiter de la bonne masse musculaire, de l'explosivité, type le sprint, type la puissance, le lancer de poids, etc., elle est moins bonne que l'homme. Bon, ok. Mais néanmoins, il y a des disciplines où, effectivement, dans l'endurance très prolongée, où là, c'est plutôt le métabolisme prolongé, donc sur des heures, où là, c'est plutôt la masse grasse qui joue un rôle important. Là, elle tire très très bien son épingle du jeu. Il y a donc cette capacité à utiliser cette masse grasse préférentiellement, et aussi où il y a la volonté qui prime. Parce que dans les conditions difficiles où c'est un peu la volonté de faire, la discipline,
l'aspect mental,
la niaque, et la résistance à la douleur.
La femme est bien meilleure que l'homme.
D'accord.
Donc voilà, chacun a ses spécificités, il faut les respecter. Et la femme est excellente dans certaines disciplines où l'homme n'excelle pas, est bien moins bon. Tout ce qui est discipline de souplesse, les disciplines artistiques, la gymnastique, le patinage, sur certaines, voilà, sur la femme est excellente dans ces disciplines. Et la femme n'a pas de, c'est parfaitement excellé dans ces disciplines.
Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, peut-être au fur et à mesure des années, les femmes pourront rejoindre les hommes au niveau des performances ou physiologiquement c'est impossible?
Ah non, physiologiquement c'est impossible. C'est-à-dire qu'une femme en lancer de poids, en sprint, n'est pas physiologiquement n'a pas la masse musculaire pour rattraper les performances de l'homme. Mais c'est, on n'est pas faite pour. C'est comme si on me demandait, est-ce qu'un jour l'homme pourra avoir des enfants? Non, heureusement. Ça me ferait très peur. Je sais que voilà, les modifications génétiques, mais non, on n'est pas fait. Chacun a sa spécificité. Voilà. Par contre, oui, la femme, l'homme ne fera jamais les performances en gymnastique artistique que fera la femme, parce qu'il n'a pas la souplesse. Voilà. Et heureusement qu'il y a des différences entre les sexes. Sinon, par contre, il y a des choses que l'on peut améliorer, parce qu'il est très très clair que quand on voit ce qui se passe à disciplines identiques, par exemple le football, le volley, le basket, les financements qui sont donnés dans les clubs, en tout cas, bon, même au niveau, mais ce qui nous intéresse, c'est monsieur et madame tout le monde. Dans les clubs, petits clubs, voilà, les financements sont absolument pas les mêmes, même au niveau régional. On sait très bien que dans les clubs de foot, par exemple, les ballons qu'on en donne aux filles, c'est quand les ballons des garçons sont plus bons.
Ouais.
Donc on va acheter des nouveaux ballons pour les garçons, on va donner les ballons qui sont plus bons pour les garçons à l'équipe de filles.
Main,
Voilà. Bon, ça, des choses comme ça, c'est pas normal. Je veux dire, les filles, elles jouent aussi bien au ballon que les garçons. Elles ont un jeu qui est beaucoup plus technique. Parce qu'elle, elle joue pas en force, elle joue en technique. Et quand on voit les performances de l'équipe française de football, voilà. Là, si on veut comparer les performances au niveau international, à financement, on va pas compter le nombre de zéros. Parce que pour moi, je veux dire, passer 3 zéros déjà, c'est, enfin 4 zéros, c'est, je, voilà, c'est même plus dans mon estimation, parce que c'est, ça dépasse mon entendement. Et je pense que c'est déjà tellement, tellement injuste, je vais rester politiquement correct, compte tenu de ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas besoin d'avoir les manifestations que l'on a actuelles, mais c'est tellement injuste. Voilà, et pourtant les femmes, elles sont performantes, donc ce n'est pas l'argent qui va induire la performance. Voilà. Mais il y a des problèmes de genre, même au-delà du haut niveau. Je crois qu'au niveau régional, il n'est pas normal que les filles n'aient pas les moyens qu'ont les hommes, au niveau des vestiaires, au niveau de l'équipement, au niveau de la qualité d'entraînement, au niveau du suivi médical. Il n'est pas normal que les garçons aient un suivi médical régulier que n'ont pas les filles.
Là, par exemple, effectivement, dans les clubs, même les clubs de haut niveau, en termes de suivi médical, etc., ils ne sont pas,
non, y a pas le même,
sur le même pied d'égalité.
La même qualité de suivi. Or, quand on s'entraîne régulièrement, tiens, les garçons peuvent être professionnalisés, c'est pas le cas des femmes. Les femmes, elles ont un travail et en plus, elles vont s'entraîner. Bon, quand même, à un certain niveau d'entraînement, il faut quand même qu'il y ait un suivi régulier.
Bien sûr.
Voilà. De même, dans les quartiers, pour certaines femmes, c'est difficile de s'entraîner parce qu'il y a encore des contraintes liées au genre. Donc ça, c'est pas normal non plus. Et le sport permet quand même de s'émanciper, sans oublier les effets sur la santé. Donc là, il y a encore une discrimination liée au genre qui n'est absolument pas normale.
Et ça, du coup, comment vous l'expliquez? Parce que maintenant, en fait, c'est des critères, au-delà des critères physiologiques, comme on disait tout à l'heure, là, c'est des critères politiques et économiques, en fait.
Et socioculturels.
D'accord.
Socioculturels.
Qui continuent encore maintenant, alors que...
Ah bah, y a, on le voit encore très, très bien. Et maintenant, justement, ça s'aggrave. Dans les écoles, il y a des enfants, enfin, des filles qui, qui ne peuvent pas aller à la piscine parce que les parents leur interdisent de se mettre en maillot de bain. Ou qui leur interdisent d'aller à la gymnastique parce qu'elles ne peuvent pas être en short devant des profs qui sont des hommes.
D'accord.
C'est dramatique. C'est dramatique parce que dans ces cas-là, il n'y a pas d'activité physique et ou sportive dès l'école. Et ça, on est dans une école laïque et ce n'est pas des choses qui sont acceptables. Là, c'est simplement de l'éducation. On a quand même une éducation laïque. C'est juste de l'éducation à la santé. Donc, je crois que c'est quand même... Je veux dire, j'en reviens simplement en dehors de toute culture. La santé et l'activité physique et sportive, c'est pas une question de genre. Ça fait partie comme l'éducation, la lecture, les mathématiques, l'histoire. C'est quelque chose, c'est un droit. L'éducation à la santé, c'est la nutrition, c'est l'activité physique.
Nos gènes, ils sont programmés pour bouger. C'est pas une question de genre.
Ouais, bien sûr.
C'est une question, voilà. Et ça, je crois qu'on n'est pas égaux en fonction du sexe, même en France, malheureusement.
Est-ce que vous pensez, du coup, parce que c'est vrai que j'ai noté plusieurs exemples que j'aborderai après, qui a tout un l'impact de la condition de femme, c'est-à-dire la possibilité de procréer, les règles, etc., qui justement ont aussi un impact là-dessus, dans le sens où on a encore l'impression, je pense, que beaucoup de gens, le fait que les femmes aient leur menstruation et que ça a un impact sur le sport, sur la performance sportive, et du coup ça reste encore dans les mentalités, ce genre de choses.
Alors je crois que ça a beaucoup changé, particulièrement chez les jeunes, en tout cas parce que je pense que chez les jeunes, alors sauf quand il y a des préjugés socioculturels, enfin surtout culturels et ou religieux, mais chez les jeunes ça a beaucoup changé parce que maintenant, alors quoi qu'il commence maintenant à y avoir des doutes sur la pilule, ce qui est quand même bien dommage, parce que faut savoir que quand même pour les jeunes, il y a des pilules mini dosées. Hein, ouais. On n'est plus dans les grosses pilules dosées. Il y a un tel panel de pilules que quand les jeunes vont voir une gynécologue, il y a vraiment des pilules adaptées à chaque âge. Et on donne des petites faibles doses d'estrogènes, donc il n'y a vraiment pas de problème. À partir du moment où elles sont suivies, et justement, il y a un suivi régulier, donc au contraire, elles sont beaucoup moins à risque que des jeunes qui vont avoir... on sait très bien que les protections préservatif, c'est parfois oublié, et en oubliant que voilà, le sida, comme il y a moins de sida, on oublie les préservatifs. Donc moi, je... C'est pas parce qu'on a la pilule qu'il faut pas prendre de préservatif, bien entendu.
Bien sûr.
Non, parce qu'en fait, maintenant, on sait que quand on prend la pilule, si on fait du sport et que il y a une compétition, la pilule, on peut la prendre 3 fois de suite.
Ouais.
Pendant 3 mois. Donc,
c'est pas vraiment recommandé, ça, quand même.
Si, c'est recommandé. Ah oui, on peut la prendre pendant 10 mois. Maintenant, c'est prouvé, ça n'a aucun risque.
D'accord.
Donc, en fait, les règles douloureuses, les règles qui vont gêner la compétition, alors c'est valable pour le haut niveau, mais même pour les jeunes qui ont des compétitions, je veux dire, c'est même plus un problème, sauf qu'il faut juste en parler.
Bien sûr.
Donc, voilà. Donc, en fait, ce vieux tabou des règles qui peuvent gêner le sport, des règles qui vont gêner la performance, avec les pilules que l'on a maintenant, les mini-dosées, on peut prendre 10 mois de pilules sans s'arrêter. Il y a des pilules, voilà, où on a les pilules pendant 10 mois, on peut les prendre sans discontinuer, ça ne pose aucun problème.
D'accord.
Voilà. Donc il faut juste en parler au gynéco ou à la gynécologue. Et les choses ont beaucoup évolué. Mais ça, c'est pareil, on n'en parle pas non, assez.
Effectivement. Moi, j'ai une question plus technique. Dans les sportifs de haut niveau qui, du coup, ont des contraceptions, ça a un impact quand même sur le niveau d'hormones dans le corps, ou c'est pas du tout considéré? Alors là, je parle le côté dopage. Est-ce que c'est considéré comme... Ça peut être considéré comme dopage, ou, enfin, quel est un peu le...
Alors, ça n'est pas considéré comme un dopage. D'accord. Parce qu'en fait, le taux d'hormones qu'elles ont quand elles prennent une contraception n'a absolument aucun effet sur la performance. En d'autres termes, il a bien été montré que chez la femme, simplement qui ne prenait pas de contraception, donc il y avait des cycles réguliers, la performance ne variait pas, que l'on soit en première partie de cycle, pendant l'ovulation, en deuxième partie de cycle ou pendant les règles. À partir du moment où les règles ne gênent pas la performance, le taux d'hormone, la variation du taux d'hormone, que ce soit les estrogènes, la progestérone ou l'ovulation, ne modifiait pas la performance. Chez les femmes, ça ne varie pas. Et de prendre une contraception, le taux d'hormone que l'on va donner ne va pas modifier les performances. Par contre, c'est différent. Chez l'homme, si on donne des estrogènes, de façon à ce qu'ils aient des estrogènes, parce que les hommes n'ont pas d'estrogènes, ils ont de la testostérone. Oui. Si on donne des estrogènes de façon à ce que le taux d'estrogène soit identique à celui des femmes, eh bien, on voit que les hommes vont être capables d'utiliser leur graisse comme les femmes.
D'accord.
Voilà, donc chez les hommes, ça modifie. Voilà, donc les hommes, les estrogènes sont interdits. Voilà.
D'accord. Mais ça peut être considéré du coup comme,
comme un produit dopant. Mais on ne l'interdit pas tout simplement parce qu'eux, ils n'ont aucun intérêt, parce qu'ils ont tellement de testostérone. D'accord. Que la testostérone, c'est bien meilleur chez eux que les estrogènes.
D'accord.
Voilà, donc il n'y a aucun intérêt. Eux, ils ont leur taux de testostérone qui augmente la masse musculaire et ils sont plus gagnants. Il y a plus d'effets positifs avec la testostérone qu'avec les estrogènes. Donc, voilà. Mais chez la femme, ce n'est pas du tout considéré comme un produit dopant.
Vous me faites une transition parfaite parce qu'il y avait un cas sur lequel je voulais aussi revenir, que je trouvais assez intéressant et assez significatif, qui est celui de l'athlète Caster Semenya.
Oui.
Qui là, en l'occurrence, on parlait de testostérone. Après, c'était pendant les championnats du monde de Berlin en 2009. Elle avait gagné le 800 mètres de assez facilement, on va dire, alors qu'elle était très jeune. Et du coup, ça avait posé un peu souci auprès du comité d'organisation qui trouvait qu'elle était trop masculine. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il y a eu toute une question, tout un soulèvement, justement, sur le côté des femmes trop masculines. Donc, ce qui est horrible, c'est qu'à l'époque, je crois qu'elle avait eu un test visuel. Elle avait dû montrer ses parties intimes, clairement, pour justifier qu'elle était bien une femme. Après, c'est allé encore plus loin. Je crois qu'il y a eu des tests de féminité qui ont été mis en place. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu, du coup, où on en est aussi maintenant, à l'heure actuelle, sur ça, en fait?
Parce qu'il y a ce qu'on appelle des dimorphismes sexuels. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des femmes, ou des hommes d'ailleurs, en fait, il peut y avoir des anomalies. C'est-à-dire, soit on a les chromosomes féminins, c'est-à-dire on est XX, ou on a les chromosomes féminins XY, mais on peut avoir une insensibilité soit au Y, soit au X.
D'accord.
On peut être XX, donc être une femme, mais avoir, extérieurement ressembler à une femme, mais avoir une mauvaise transformation, en fait, tous les organes ne pas avoir régressé, et avoir, en fait, ce qu'on appelle une mosaïque, c'est-à-dire, en fait, avoir encore des petits résidus masculins, parce que tout s'est pas totalement résorbé,
d'accord,
et avoir quand même une sécrétion d'hormones mâles. Donc, avoir quand même un excès d'hormones mâles. Bon, et tous les intermédiaires sont possibles, en fait. Parce qu'en fait, entre les chromosomes, il y a les chromosomes qui vont déterminer, en fait, normalement, les organes génitaux externes. Mais derrière, il y a les hormones, les testicules et les ovaires. On peut avoir les deux.
Ouais.
On peut avoir des testicules et des ovaires. Et puis après, on peut avoir les hormones. Et puis, il faut des récepteurs aux hormones pour que les hormones soient efficaces. Il y a tous les intermédiaires possibles. On peut avoir les hormones. On peut ne pas être sensible aux hormones. On peut avoir beaucoup trop de récepteurs. On peut être très sensible aux hormones, pas du tout sensible aux hormones. Donc, il y a tous les intermédiaires. Donc, ce qui fait qu'on peut ressembler à un homme, mais être programmé pour être une femme.
D'accord.
Mais pas du tout être sensible à nos hormones féminines. Ça peut être possible aussi. Bon, on n'est pas du tout sensible aux hormones féminines. Et par exemple, la femme, elle sécrète aussi des hormones mâles, avec ses surrénales. Donc, si on n'est pas sensible aux hormones féminines, on a tout ce qu'il faut pour être une femme, mais on n'est pas sensible aux estrogènes. Donc, tout se passe comme si on était un homme.
D'accord.
Donc, voilà, c'est pour ça que c'est si compliqué. C'est ce qu'on appelle les dimorphismes sexuels. Donc, voilà, c'est un mot compliqué. Mais on sait que c'est une espèce de truc. C'est pour ça que le diagnostic est très, très difficile.
Vous, quel est votre point de vue par rapport à ça dans la pratique sportive? Parce qu'il y a eu un gros débat, ça fait des années, c'est toujours pas fini. J'ai l'impression
que c'est
toujours...
C'est vraiment des questions d'experts. Le problème, c'est l'athlète. C'est extrêmement compliqué. J'ai imaginé psychologiquement. Donc, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision pour l'athlète. Mais psychologiquement, c'est impossible à vivre. Alors, il faut bien qu'il y ait une décision qui soit prise. Après, je sais pas du tout ce qui a été décidé. J'ai pas été expert. Normalement, je peux parfois être amené à faire partie de ce type de comité d'experts. J'ai pas été sollicité, et tant mieux. J'en suis bien contente. Mais après, c'est un avis d'expert. Mais au-delà de l'avis d'expert qui va donner un avis scientifique sur un ensemble de données biologiques, faut le taux d'hormones, faut l'analyse génétique, l'analyse moléculaire. Souvent, on fait des analyses moléculaires pour voir s'il y a des modifications des récepteurs. Et après, on va faire un diagnostic. Qui est un ensemble de faisceaux d'arguments, mais ça ne résout pas le problème psychologique de la personne. La question, généralement, ça finit comme ça. C'est la personne qui doit choisir son sexe.
D'accord.
Son sexe psychologique. Comment cette personne se sent? Est-ce que se sent, en fonction de son histoire, comme un homme ou comme une femme? Et après, c'est cette personne qui va choisir son sexe. Alors après, si cette personne se sent comme une femme, et que l'ensemble des éléments concourent à penser, par exemple le taux de testostérone concourt à penser que c'est un homme, elle n'aura pas le droit de concourir avec les femmes. Mais après, c'est à elle de choisir son sexe.
Parce que là, en l'occurrence, je crois, sur le cas de Caster Semenya, elle avait dû avoir un traitement pour baisser son taux de testostérone, etc. Et que maintenant, j'ai lu quelque part, comme quoi, je crois que maintenant, il y avait un taux de testostérone qui était... plafonné.
Oui, ils ont limité.
Ils ont limité un certain taux, je crois que c'est 5 nanomoles de litre par 100, je crois. C'est ce que j'ai lu, en tout cas.
Ils sont obligés de mettre une limite, c'est ça. Je crois que c'est... Parce que sinon, c'est pas juste pour les autres.
Ouais.
C'est clair. On sait que, de toute façon, n'importe quelle femme, vous augmentez le taux de testostérone.
Ça a vraiment un impact sur la performance.
Ah, alors là, c'est une courbe dose-réponse.
D'accord.
Plus vous augmentez la testo, plus les performances, la masse musculaire augmente, la force musculaire augmente, donc toutes les performances augmentent. la vitesse, la puissance, la force.
Mais ça, chez les hommes, par exemple. Un homme qui va avoir plus de taux de testostérone sera aussi plus, plus puissant.
Vous voyez, là, enfin, toutes les études le montrent. Hein, et c'est vraiment... Il n'y a pas de limite, si vous voulez. Plus vous augmentez la testo, plus la masse musculaire augmente. Même sans s'entraîner. Alors, si vous entraînez, c'est encore un effet plus important. C'est additif. Hein. Donc, vous voyez la masse musculaire qui augmente, la force musculaire qui augmente, la capacité, par exemple, en squat... pour les membres inférieurs, en biceps, en bench press pour les...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Membre supérieur, le lancer, la vitesse, enfin c'est impressionnant.
Et ça a vraiment un impact.
Et c'est pas pour rien que les gens ils se dopent aux stéroïdes anabolisants, ouais. Enfin, les hommes. Alors, les femmes le font pas parce que chez les femmes, si vous voulez, elles sont gênées parce qu'il y a des signes extérieurs. Mmh. C'est ce qu'on appelle l'hirsutisme. Donc il y a l'acné,
la pilosité,
il y a pilosité au niveau de la face, au niveau du thorax, au niveau des jambes, donc ça se voit.
Ouais.
Donc encore, elles peuvent se raser sur le corps, mais sur le visage, je veux dire, même se raser, ça se voit. C'est... Mmh. Et puis, elles perdent des cheveux, il y a une calvitie très masculine. Donc ça, ça se voit. Les D'accord. hommes, c'est déjà le cas.
Oui.
Donc, voilà. Donc,
c'est plus discret.
Voilà.
Mais alors, du coup, bah, au-delà de ça, au-delà du côté plus technique, mais ça pose quand même, je trouve, une question déontologique, parce que je trouve qu'il y a une volonté en permanence de toujours vérifier la féminité, en fait, que les femmes sont bien des femmes. Chose que les hommes, on va pas vérifier que c'est bien
c'est
des
sûr,
hommes.
C'est sûr.
Alors que ça, pour le coup, c'est vrai qu'il y a eu d'autres exemples. J'ai donné l'exemple de Caster Semenya sur le 800 mètres, mais il y a eu d'autres exemples par le passé de femmes qui étaient trop masculines. Donc on teste tout le temps la féminité pour savoir si elles sont bien des femmes, si elles sont assez féminines pour pouvoir faire leur sport. Je vous trouve pas qu'il y a quand même
un problème. C'est dramatique. C'est dramatique. Les femmes trop masculines, on est obligé de vérifier la féminité. Mais ça me fait penser, vous avez vu cette performance de cette athlète américaine là, qui a gagné le concours de gymnastique?
Ah oui, bien sûr. Oui,
ah.
Oui.
Eh bien, là, il paraît que... Mais là, elle n'a pas du tout le morphotype aussi.
Ouais,
elle est un
sûr.
Peu ronde, elle
tout
a un petit
fait,
peu
ouais.
de graisse. C'est extraordinaire. Elle n'est pas du tout dans les profils habituels. Et je lisais ce matin...
C'était le universitaire, je crois.
Pour universitaire, mais regarde sa performance, c'est extraordinaire.
C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable.
C'est extraordinaire. Eh bien, je lisais, on s'est toujours moqué de son aspect. Parce qu'elle est un peu ronde, mais c'est un plaisir, je veux dire, enfin, une sportive qui n'est pas rachitique,
bien sûr.
Qui ne ressemble pas à une gamine de 10 ans, voilà, qui a des formes, en plus qui sourit, qui on sent qu'elle est
Absolument.
Bien nourrie, qu'elle est en forme, voilà, mais elle n'a pas les profils des sportives femmes. Une sportive femme qui fait du sport de haut niveau, de la gymnastique ou de l'endurance, elle est, généralement, elle n'a pas de règles. Parce
ouais.
qu'elle n'a pas de graisse, elle est à 10-15%. Donc, on les met dans des situations qui sont anti-physiologiques.
Mmh.
Et là, enfin, on a une femme qui fait du sport à très haut niveau, qui sourit, qui n'est pas dans la souffrance, qui se fait plaisir, qui a des formes. Mais c'est extraordinaire, les choses changent. Je trouve que ce modèle de jeune fille américaine... mais c'est les choses évoluent, c'est fabuleux.
Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une jeune fille. Je me suis un peu intéressée à son profil. Je crois
ouais.
que ça s'appelle Kathleen Ozashi, quelque
c'est
chose
ça,
comme
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça.
Il y a un petit documentaire qui est sorti sur elle là. Il y a quelques jours,
ouais.
vraiment à peine 10 minutes,
ouais.
où elle explique que c'était très difficile pour elle, qu'à la base, elle était meilleure que Simone Biles, qui est quand même championne olympique. Elles ont à peu près les mêmes âges,
ouais.
Et qu'elle a eu des blessures, etc. Et qu'en plus de ça, effectivement, je pense qu'elle avait vachement de mal avec le côté rigueur qu'on donnait dans ce sport.
Ouais.
Du coup, elle a pris un autre chemin qui était le chemin de l'universitaire et qu'elle s'est reconstruite là-dessus, sur le plaisir, mais que ça a pris énormément de temps, et même pour elle, pour s'accepter, son corps, etc., effectivement, qui avait été beaucoup décrié parce qu'elle avait des insultes comme quoi elle était grosse,
ouais,
comme quoi.
Ouais.
Mais c'est, on remarque que ça évolue, mais que ça prend quand même du temps et que c'est des souffrances psychologiques pour les femmes qui sont énormes.
Ouais,
sont énormes.
Ouais.
Donc, même si on voit le résultat final, entre guillemets, qui est une jeune femme épanouie, souriante, magnifique, hein, elle est absolument elle est solaire quand on la voit faire sa performance. Mais c'est vrai qu'après, quand on s'intéresse un peu à son
parcours,
c'est très compliqué.
Oui,
c'est vraiment des souffrances terribles.
Oui, mais ce qu'on ne dit pas, c'est les souffrances des autres.
Oui,
classiques. C'est encore pire.
Bien sûr.
C'est encore pire. Elles sont en aménorrhée, donc pas de règles.
Mm-hmm.
Elles ont eu des souffrances, des privations. Si on garde leurs os, c'est pas brillant.
Ouais.
Les années d'entraînement, les autres, elles en parlent pas.
Ouais.
La différence, c'est qu'elles en parlent pas. Est-ce qu'elles en parlent?
Mm.
Et elles, c'est un... moi, les autres, elles me font pas rêver.
Ah
hein.
Oui, bah, je suis complètement d'accord.
Regardez une Nadia Comaneci.
Ah,
une
oui,
Nadia
oui.
Comaneci, dès qu'on l'a lâchée. Elle a pris du poids, elle est devenue obèse. C'était triste de la voir revenir en compétition quand elle avait pris du poids. Quand elle a eu une puberté, quand elle a pu manger, quand elle a eu une puberté, c'était à pleurer de voir ses performances.
Ouais.
Et elle, c'est un plaisir. Ça fait du bien. Ça fait, voilà, c'est un rayon de soleil. Ça, c'est la vraie vie, quoi.
Mmh.
Ah, la vraie vie.
Ouais. On se comprend.
Voilà.
Est-ce qu'il y a vraiment... Alors ça, moi, c'est vrai que j'avoue, j'imagine de toute façon, quand on fait du sport à haut niveau, l'impact psychologique, il est très fort. Mais est-ce qu'on, quand on est une femme, on n'en demande pas encore plus? Parce qu'il y a ce côté aussi corps, beauté du corps, etc. C'est vrai que j'avais lu, je crois même dans l'ouvrage La femme sportive, comme quoi les femmes, par exemple, qui se dopaient, généralement, c'était plus souvent pour modifier leur apparence physique. Que pour limite augmenter leur performance, c'était vraiment une question de...
Oui, bah, de toute façon, l'image du corps chez la femme, enfin, je veux dire, même souvent, l'activité sportive, la première motivation, c'est modifier le corps.
Oui, hein, perdre du poids.
Il y a toujours cette image de la silhouette mince, sans graisse, musclée, ce qui est... Enfin, je veux dire, on est quand même énormément conditionné par l'image des médias,
ouais.
Et l'image des médias qu'on a, même si elle évolue un peu, c'est l'image du mannequin qui est une image antiphysiologique. Un mannequin, c'est taille 34, ça n'existe pas, le taille 34. Si, enfin, je veux dire, physiologiquement,
oui, bien sûr.
Si tout on était des femmes de taille 34, on n'aurait pas de règles, on n'aurait pas d'enfants, on aurait des os ostéoporotiques, c'est-à-dire on se casserait dès qu'on se casserait, nos os se casseraient dès qu'on tomberait. Quoi. Donc voilà, mais surtout on n'aurait pas d'enfants, donc la France serait dans un mauvais état. Voilà, ces femmes-là, puis on serait dépressives.
Ouais.
Hein, caractérielles, dépressives, hystériques. Vraiment hystériques, là,
quel
cette
monde.
Fois-ci. Voilà, quel monde. Donc c'est bon, quoi. On ne serait pas le pays qu'on est, passant du temps à table et convivial. Voilà, donc c'est bon. Il faut encore travailler sur cette image de la femme.
Mmh. Vous parlez de grossesse, c'est aussi un sujet qui m'intéresse, pas particulièrement, mais sur les sportifs de haut niveau.
Mmh.
Parce que c'est pareil, ça reste encore quelque chose d'extrêmement tabou et il y a énormément de sportifs de haut niveau qui, je pense, s'empêchent d'avoir des enfants. Est-ce que, déjà une question très simple, mais est-ce que la grossesse a vraiment un impact après sur la performance sportive?
Non. Non. Enfin, oui et non, c'est non dans un monde idéal. C'est-à-dire à partir du moment où la grossesse est bien vécue et qu'elle est bien accompagnée par la fédération sportive. Mais beaucoup d'athlètes de haut niveau racontent qu'effectivement, quand elles sont tombées enceintes, elles ont été virées de la fédération. Quoi.
D'accord. Ce qui est totalement illégal, ils ont le droit de faire ça
Ouais. Bah, non, elles n'ont pas le droit. Ouais. Enfin, elles ont le droit, elles n'ont pas le droit. Je veux dire, à partir du moment. C'est ce qu'elles disent. Hein. Ce qui est dramatique, c'est que c'est 9 mois de grossesse. C'est souvent 4 mois d'arrêt avant, 9 mois, et si c'est une période olympique, bah, ça fait 2 ans d'arrêt. Quoi.
Mmh.
2 ans d'arrêt, c'est un arrêt de travail, c'est 2 ans d'arrêt de travail. Quoi. Voilà, donc ça pose d'énormes problèmes. Hein. Donc généralement, elles font ça, elles le font en fin de carrière. Mais il y en a qui ont le courage de le faire pendant leur carrière et de reprendre après à très haut niveau. Donc c'est des exemples magnifiques. Hein.
Ouais.
C'est des exemples magnifiques. Donc ça, faut dire qu'il faut une volonté, il faut une niaque, il faut. Voilà, souvent pour faire face à la fédération, c'est dans la grande majorité des cas le cas. Pas toujours, mais dans la grande majorité des cas, c'est très difficile de faire tenir tête à sa fédération en disant voilà, je continue ma carrière, mais je m'arrête le temps de faire mon enfant et je reprends après.
Mais est-ce qu'encore une fois, c'est pas une des suppositions sur donc la femme arrête, elle va avoir un enfant, donc finalement les fédés se disent qu'après elle sera plus à son meilleur niveau et que du coup elle, entre guillemets, je vais pas dire elle sert à rien, mais en tout cas ce sera plus la même chose, elle fera plus les mêmes performances, et qu'en plus de ça, je pense l'aspect aussi peut-être se dire elle a un enfant, donc elle sera moins focalisée sur sa performance sportive parce qu'elle a quelque chose qui est quand même très important dont elle, dont elle doit une personne dont elle doit s'occuper, influence aussi énormément les mentalités, alors que finalement je pense que la sportive qui c'est son métier
tout à fait, mais je crois que surtout il voit que c'est 2 ans d'arrêt de travail.
Ouais,
c'est 2 ans d'arrêt de travail pour un sportif. 2 ans, c'est la carrière de haut niveau, c'est court, donc 2 ans d'arrêt de travail, c'est énorme.
Mais d'un autre côté, il y en a qui ça motive énormément et elles ont la niaque pour reprendre après et reprendre encore plus après pour prouver que justement elles sont capables. Mmh. Voilà.
Oui, bah, c'est vrai que l'exemple de Serena Williams, par exemple, de l'année dernière, qui a eu une petite fille. Et c'est marrant, mais justement, dans les médias, etc., on beaucoup disait, ou, enfin, dans les médias, je pense, sont un peu plus modérés, parce que c'est un peu compliqué de dire ce genre de choses sans avoir de problèmes derrière. Mais le public, dès qu'elle est tombée enceinte, tout le monde a dit bah elle est finie, elle arrête sa carrière, quoi. Bon, en plus, c'est vrai que pour le tennis, en plus, elle est considérée comme âgée, entre guillemets. Mais je trouve que c'est des superbes exemples. On voit bien que elle a refait des finales derrière en grand chelem, ce qui au final
est
inspirant, et on devrait le mettre encore plus en avant, ce type de...
Tout à fait. Mais ça reste un gros problème, hein, la grossesse chez les athlètes de haut niveau, parce qu'elles sont pas du tout aidées. Soyons clairs, elles ne sont pas du tout aidées par les fédérations pour mener à bien leur grossesse.
Est-ce que du coup, c'est une question, il faut les éduquer là-dessus, ou comment faire pour faire évoluer les mentalités au sein même des fédés ?
Tout simplement, c'est une question de financement. C'est comment payer des athlètes qui ne sont pas rentables pendant 2 ans.
Mais on revient toujours sur des problèmes économiques au final.
C'est l'investissement financier.
D'accord. Ouais.
On n'a pas ces problèmes avec les hommes. C'est quand même une façon de ne pas tomber enceinte toute seule, quoi.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Non, mais on en revient toujours au même problème. Voilà, mais après, il faut faire confiance à la femme. Si elle dit qu'elle va revenir, elle reviendra. Mm-hmm. Je veux dire, c'est quand même des athlètes de haut niveau. Elles ne sont pas arrivées au niveau où elles en sont de façon incidente.
Par erreur. Voilà. Sans rien faire.
Voilà. Et puis beaucoup, en fait, maintenant, je veux dire, on a bien démontré aussi. Autant il y a encore quelques années, on disait l'activité physique et sportive, même intense, c'est pas bon pendant la grossesse.
Ouais.
Or, c'est pas du tout le cas. Maintenant, on le démontre bien. Et donc, en fait, les athlètes de haut niveau s'entraînent presque normalement jusqu'à 6 mois. Mm-hmm. Et entre 6 et 9 mois de grossesse, à partir du moment où la grossesse se passe bien, peuvent avoir un niveau d'entraînement, en tout cas garder une certaine technicité. Bien sûr, ils vont pas faire des exercices intenses, mais gardent la technique. Et puis après, elles peuvent reprendre assez vite. Après, c'est la rééducation du périnée, mais elles peuvent garder quand même une certaine technicité. Donc, en fait, l'arrêt n'est pas si long que ça.
J'avais même, je ne sais pas si c'est vrai, j'avais même lu comme quoi les 3 premiers mois, les performances pouvaient s'améliorer, justement.
Elles augmentent parce que tant qu'elles ne prennent pas de poids, elles augmentent en endurance d'à peu près 20%.
Donc, les 3 premiers mois. Aux hormones, justement
Oui, aux hormones. Et puis, parce qu'en fait, la vascularisation augmente, puisqu'en fait, l'organisme s'adapte à nourrir 2 organismes. Donc plus d'oxygène, plus de vaisseaux, et tant qu'elles prennent pas de poids, eh bien en fait les performances s'adaptent. Donc c'est au-delà de 3 mois, parce qu'aux 3 mois elles commencent à prendre du poids. Donc là l'endurance diminue un petit peu, mais justement à ce moment-là c'est faire des sports portés, donc c'est plutôt du vélo ou de la natation.
D'accord.
3 à 6 mois elles peuvent faire encore beaucoup d'endurance, et au-delà de 6 mois là c'est on lève le pied, mais on peut faire tout à fait de technique, les épéistes, tout ça, continue à travailler les gestes techniques, elles le font assis, mais il y a pas de problème.
Mais d'ailleurs il y avait eu une polémique il y a quelques années maintenant, plutôt dans les années 60.
Ah, oui.
Sur des grossesses provoquées pour améliorer les performances à l'approche.
Ça avait bien été démontré. Hein,
ça avait vraiment été démontré.
Ouais, les athlètes de l'Allemagne de l'Est et de l'ancienne Russie qui avaient vraiment été mises enceintes parce que ça augmentait.
Ouais. Mais ce qui en soi, même si, je me place, si ça augmente leur performance sur les 3 premiers mois, elles sont obligées d'avorter quand même.
C'est ce qu'on les faisait avorter.
Au bout d'un moment, ce qui en soi est quand même physiquement, je pense, très traumatisant pour les athlètes.
Non seulement elles avaient été mises enceintes à l'insu de leur plein gré, si je puis dire. Bref, elles avaient été violées, quoi.
Ah oui, d'accord.
Violées, et l'objectif était, on les faisait maintenir leur grossesse jusqu'à 5-6 mois. Et l'objectif était que les performances étaient augmentées tant qu'elles ne prenaient pas de poids.
D'accord.
Donc on les laissait
en plus,
jusqu'à 5-6
mois.
Elles s'entraînaient comme des
malades.
Comme normalement. Ouais. On ne les faisait pas prendre de poids de façon à ce que les performances soient bien augmentées. Et à 6 mois, on les obligeait à avorter.
D'accord.
Dramatique. Dramatique.
C'est horrible.
Ouais.
Je vais vous poser une question maintenant, en sortant un peu juste plus personnelle. C'est une question qu'on pose assez régulièrement, parce que je trouve que c'est assez intéressant de voir ce qu'il en ressort. Mais est-ce que vous pourriez, vous, nous parler d'un moment de sport qui a été marquant pour vous ? Là, en l'occurrence, peut-être plus du point de vue du médecin. Peut-être plutôt que... est-ce que vous avez en tête un moment de sport qui a été...
Oh oui. Oui, il y en a beaucoup.
Pour vous, marquant, et peut-être aussi parce que ça, je ne sais pas, ça a provoqué des avancées médicales ou pas, d'ailleurs.
Oui,
mais...
Non, pas avancées médicales, mais il s'avère que... on a mis, j'ai eu la chance de participer à un groupe qu'on appelle les filles au sommet, qui est en fait
L'objectif est en un an d'entraîner, d'amener des femmes qui ont eu un cancer du sein, mais pas forcément du cancer du sein, des femmes qui ont eu un cancer, de les entraîner régulièrement de façon à ce que, sur un an, de façon à ce qu'au bout d'un an, on les amène pendant une semaine dans les Alpes et que le dernier jour de cette semaine dans les Alpes, elles fassent un sommet, elles fassent le Mont Buet, qu'on appelait autrefois le Mont Blanc des Dames.
D'accord.
Le Mont Blanc, ouais. Réservé aux hommes autrefois, c'est début du XXe siècle, en 1900. Et les dames n'avaient pas leur Mont Blanc, parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas capables, elles avaient le Mont Buet qui est à 3100 mètres. Et donc l'objectif, c'est que le dernier jour, donc pendant une semaine, elles font à peu près, chaque jour, elles font entre 700 000 mètres de dénivelé, on dort en refuge, et le dernier jour, elles montent le Mont Buet, donc 3100 mètres. Donc voilà, c'est l'objectif.
D'accord.
Donc tous les dimanches, enfin tous les 15 jours, on les entraîne. Donc elles, au début, elles font premier dimanche, elles, donc c'est des femmes pas du tout entraînées. Mm-hmm. Donc le premier dimanche, elles font un kilomètre. Et puis peu à peu, on augmente les distances, le dénivelé, de façon à ce qu'elles soient capables au mois de juin de partir une semaine et de faire 700 à 1000 mètres de dénivelé pendant 6 jours. Et le dernier jour, de faire l'ascension du Mont Buet et dormir en refuge. Et donc, moi, j'ai fait la première sortie. Maintenant, on a la V4, quatrième version. Et c'est une expérience. Ben, voilà, moi, on a dormi tous ensemble là, pendant les 7 jours. C'est une expérience extraordinaire parce qu'il s'est noué. Je le sais, j'ai déjà fait des choses avec des malades. Elles étaient toutes, certaines étaient en rémission, d'autres étaient en fin de traitement, d'autres étaient encore en traitement, d'autres étaient en rechute. Il y avait quoi ? Il y avait au moins 15 femmes. Alors on avait la chance d'avoir un guide de montagne. Et il s'est passé dès le premier jour vraiment une ambiance toute la semaine. Des contacts, des émotions qui sont libérées. Déjà le groupe s'était constitué parce qu'en se voyant tous les dimanches. Et ce qu'on voit entre les patients, parce qu'il se passe, ils se disent des choses entre elles qu'elles ne disent pas entre les médecins. Elles parlent de leur maladie, mais pas que.
Mm-hmm.
Hein, et déjà elles-mêmes entre elles, elles disaient, oh là là, pendant une semaine, j'espère qu'on va pas parler que de la maladie, parce que entre nous. Et en fait, elles parlent de plein de choses, de leur maladie, puis une ambiance. Puis, de toute façon, c'est toujours comme ça quand on part en montagne. On parle de plein de choses. Et puis au moment de faire le Buet. En particulier dans notre groupe, il y avait une jeune femme qui avait un cancer de l'ovaire, qui avait une vraie cochonnerie et qui était très réfractaire, enfin qu'on avait eu du mal dès le début parce qu'elle marchait toujours toute seule, donc qui avait eu vraiment beaucoup de mal avec son cancer déjà, qui était mal vécu, qui avait beaucoup souffert, l'intervention avait été lourde, elle avait eu beaucoup de complications et qui peu à peu commençait à venir parler un peu dans le groupe, mais pendant les deux trois premiers jours elle était un peu isolée dans le groupe. Et puis, trois, quatrième jour, on l'a vu un petit peu se dérider, se rapprocher du groupe. Et puis, on n'était pas sûr de pouvoir faire le Buet parce que le temps n'était pas terrible. Et puis, la veille du jour, on lui a dit, écoute, on verra demain matin parce qu'on n'est pas sûr. Le temps n'est pas certain et s'il fait mauvais, on n'y va pas. Mmh. Elle nous a piqué une colère, mais un truc vraiment... sortie du refuge en pleurant. Moi, je suis partie après pour la rattraper. On a discuté un peu. Bon, et puis elle est rentrée, elle n'a pas fini le repas, elle est allée se coucher. Puis le lendemain matin, on prend le petit-déj, et avant le petit-déj, on devait prendre la décision. Et puis elle nous a dit, je veux vous parler. Je me suis dit, oulala, elle nous dire, elle descend. Et en fait, elle nous a fait un discours en disant, écoutez, je suis désolée de ce qui s'est passé hier. Et elle nous a expliqué sa démarche. En fait, ce groupe pour moi, le Buet, ça m'a changé la vie, ça m'a ouvert une autre perspective. Il y avait un témoignage spontané sur la souffrance de la maladie, ce que lui avait apporté le groupe. C'est un truc extraordinaire. Et en fait, le lendemain matin, on a pu faire le Buet, on l'a fait tous ensemble. Et là, il y en avait qui avaient du mal, mais tout le monde l'a fait. Même si c'était dur, on a mis, 5-6 heures à monter. Et il y en avait une qui s'était fait transfuser une semaine avant pour pouvoir le faire avec nous. Et il y avait vraiment, le groupe l'a porté, quoi. Je veux dire, le groupe a porté, et tout le monde y est arrivé. Il y avait une émotion là-haut. Bon, après, on a redescendu tranquillement, mais il y a eu une émotion. Enfin, je veux dire, les choses comme ça, ça se décrit pas, quoi. C'est quelque chose qui se vit. Et c'est quelque chose qu'on n'oubliera jamais, quoi. C'est y a la photo là-haut, c'est une émotion partagée, c'est une émotion de groupe. Et après, vous voyez, ce V1 vient toujours à l'arrivée ou au départ des autres groupes.
D'accord.
Et on continue à se voir. Et de temps en temps, ils vont faire les randonnées avec les nouvelles. Parce que voilà, il y a cette histoire partagée, et c'est la solidarité d'un groupe à travers la maladie. Bon, depuis, il y en a deux qui sont décédés.
Mais voilà. En contact avec
à tous. Voilà, toutes. C'est voilà. Et, des émotions comme ça, c'est les autres continuent à marcher et continuent alors qu'elles faisaient rien.
D'accord, ça leur a vraiment donné l'envie.
Une solidarité de groupe, et c'est sortir de la maladie à travers une activité physique et ou sportive chez des femmes qui faisaient rien. Mais c'est pas que l'activité, c'est la nature, c'est découvrir des choses. Du coup, elles font plein de choses. Elles ont créé un groupe loin de Clermont. Ouais. Il y a l'activité crêpe, il y a l'activité. Enfin, elles font plein de choses en dehors, mais ensemble pour se sortir de la maladie et penser à autre chose. Ouais, quoi.
Vraiment le côté groupe et
mais socialisation, plaisir, partager, vivre autre chose ensemble. Voilà.
Justement, à titre personnel, vous vous investissez aussi dans d'autres, dans des associations ou dans...
Des
initiatives.
Je suis toujours là. On travaille sur des projets de tangothérapie. Là, on a une dame, on a la chance d'avoir une danseuse qui. Donc, on met en place grâce à elle de la tangothérapie chez les patients qui ont une spondylarthrite ankylosante, une polyarthrite rhumatoïde, donc des maladies inflammatoires chroniques qui bloquent le dos et les articulations. Et donc, on a fait du tai chi grâce à quelqu'un qui s'appelle Laurent Perron, qui est absolument génial. Et ça marche très bien avec le service de rhumatologie. Là, on met en place la tangothérapie. C'est un truc absolument fabuleux. Avec une femme, quand elle parle du tango, c'est génial. Parce que le tango, en fait, il faut suivre le partenaire. Donc forcément, vous oubliez. Il faut écouter l'autre, le corps de l'autre. Donc c'est déjà du lâcher prise. Donc c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment... Ouais. C'est bouger, mais en s'oubliant. Voilà, donc... Il y a plein d'initiatives, plein de choses. Et puis évidemment, c'est des rencontres de personnes. Parce que cette femme qui fait du tangothérapie, elle est extraordinaire. Vous la voyez, elle a des yeux ronds, elle a la petite bouille. Vous avez qu'une envie, c'est de la suivre, c'est de l'écouter. Donc il y a des gens fabuleux, quoi. C'est des rencontres qui font bouger les choses dans tous les sens du terme, quoi.
Bah justement, ça va rejoindre, je pense, un peu ce que vous dites. Mais du coup, notre podcast s'appelle Championne du monde. Pour multiples raisons. Mais vous, quelle serait en fait, tout bêtement, la définition d'une championne ?
Oh, c'est une personne qui fait bouger les lignes. Voilà, bouger sa vie, bouger la vie des autres, mais voilà, qui reste pas dans un une personne qui a plein de vie. Moi, j'aime bien les gens qui ont plein de vie, quoi. J'aime bien les gens qui sont les électrons libres, les gens qui sont pas dans une trajectoire. Voilà, c'est une championne de sa vie, mais pour la vie des autres aussi, quoi. Pas dans une trajectoire, pas dans un truc sclérosé, là, dans un cadre. Vite, on étouffe, quoi.
Pour la petite anecdote, du coup, la majeure partie des gens qui vont écouter ce podcast sont probablement dans des positions assises ou couchées, même, peut-être, voilà. Je sais que vous n'appréciez pas forcément les gens qui restent trop assis. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ou envie de leur faire faire à ce moment-là, quand ils nous écoutent, là ?
Non, c'est pas que j'apprécie pas, mais je vais juste les informer que voilà, là ils se transforment en bombe vivante parce que en fait être assis, je vais juste leur expliquer la situation. On recommande de faire 30 minutes d'activité physique par jour, donc activité physique c'est type marche, hein. Faut savoir que 70% des Français n'arrivent pas à faire ces 30 minutes d'activité physique. Mais on oublie juste de leur dire que à côté de cette activité physique, on passe en moyenne 12 heures assis par jour entre le lever et le coucher. Hein, si vous comptez tous les temps passés assis au travail, dans vos déplacements et dans vos loisirs. Or, le temps passé assis, c'est en lui-même un facteur de risque de mourir précocement et de développer toutes les maladies chroniques liées à notre mode de vie, donc cancer, diabète, obésité. Je suis désolée, c'est pas très positif ce que je dis, mais le temps passé assis, c'est vraiment un facteur de risque de développer des maladies chroniques, même si on fait les 30 minutes d'activité physique. Mmh. Or, on les fait pas. Donc, la première chose, c'est simplement, et en fait, c'est très, très simple d'éliminer ce genre de choses, c'est de se lever régulièrement. Et dans l'idéal, il faut toutes les 30 minutes se lever. Et gesticuler un peu, donc marcher un petit peu. Donc voilà, et ça c'est un message qu'on ne passe pas, et c'est vraiment dommage parce que c'est simple, c'est simplement penser à se lever régulièrement, toutes les 30 minutes se lever, et quand on prend l'habitude de se lever, on supporte plus.
Ça devient un automatisme.
Voilà, on supporte plus, moi je sais que je supporte plus. Alors, ces réunions, en France on a la réunionite, c'est insupportable. Pensez, quand vous êtes au téléphone, vous vous levez régulièrement, vous passez plus le temps au téléphone assis. Vous soulever. Hein, c'est l'intérêt des portables, c'est qu'on peut gesticuler. Voilà. Devant les écrans vidéo, bah, voilà, vous levez. Pensez à vous lever régulièrement. Bah, c'est déjà une bonne chose. Et puis, si vous comptez les pas que vous faites quand vous levez régulièrement, bah, déjà, vous aurez peut-être vos 5000 ou 6000 pas par jour. Voilà. Ça, c'est la première chose. Bah, déjà, vous aurez fait beaucoup de choses pour votre santé. Puis, déjà, se lever, c'est le début de la mobilité. Et puis après, vous penserez à bouger un peu plus. Mais voilà. Simplement pour vous, message positif. Hein. Vous avez, des fois, vous êtes demandé qu'est-ce que je pourrais prendre comme bonne résolution. Moi, j'en prends jamais, mais au moins une, pensez à vous le faire régulièrement toutes les 30 minutes.
Sans forcément faire du sport à outrance.
Non, pas besoin d'aller courir. Juste pensez à vous lever toutes les 30 minutes, bouger une ou deux minutes, et puis après, vous vous rasseyez, puis vous recommencez dans 30 minutes.
Merci beaucoup, Martine, en tout cas, d'avoir été avec nous et pour toutes ces choses très intéressantes.
Merci à vous, c'était un véritable plaisir.
Merci.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.